RCF.
Pourquoi la souffrance n'épargne-t-elle pas les justes et les bons? Et pourquoi Dieu ne semble pas répondre à ceux qui crient vers lui? Ce scandale du mal, ce douloureux silence de Dieu, ce sont les thèmes qui sont au cœur de notre émission aujourd'hui. Une émission sur l'abandon, celui que l'on subit quand on est rejeté, le sentiment d'être seul, mais aussi l'abandon, l'invitation à s'abandonner entre les mains de Dieu, à remettre sa vie à plus grand que soi. Voilà un thème qui vous a inspiré, frère Benjamin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre salésien, directeur du collège Don Bosco Giel en Normandie. On vous retrouve aussi sur Facebook, TikTok. Mais aujourd'hui, c'est au cœur du livre de Job et du psaume 22 que vous nous emmenez. Comme quoi, un amoureux de l'Ancien Testament peut aussi avoir des abonnés sur Instagram. Ah, et peut-être tout simplement parce que les questions qui traversent la Bible, eh bien, ce sont des questions existentielles. Avant d'entrer dans ces textes, frère Benjamin, deux mots sur ce qui vous rejoint de cette thématique de l'abandon.
D'abord, ça me rejoint dans mes propres chemins de vie, quoi. Hein, évidemment, j'ai souvent dit, je me sens être un spécialiste du manque et de l'abandon. Voilà, parce que mon père est parti à ma naissance, donc déjà ça vient façonner une attention à cette question. Il a fallu la penser aussi, la digérer pour soi, et du coup la penser pour la mettre en mots, la mettre en, voilà.
Et en particulier l'histoire de Job peut-être aussi, est-ce que c'est un texte que vous avez découvert au séminaire, que vous connaissiez avant, qui vous a marqué à un moment, un tournant de votre vie?
Oui, il y a deux textes, j'aurais pu parler du Cantique aussi, le Cantique des Cantiques, alors ça c'était pour le Benjamin romantique, et puis le Benjamin ténébreux qui à l'adolescence souffrait de plein fouet le fameux abandon du père que j'évoquais à l'instant. Des livres comme celui de Job évidemment sont une source d'inspiration, c'est-à-dire que vraiment on n'évince pas le sujet de la souffrance, on s'y plonge en plein dedans, en long large à travers, en profondeur. Et donc le livre de Job, oui, pour moi ça a été cet exemple de la fidélité malgré la perte de tout, le dénouement. Et puis c'est le symbole de notre vie, quoi. C'est-à-dire je considère ma vie comme un long dépouillement qui pourra me faire dire comme Job, nu je suis arrivé sur terre et nu je la quitterai, quoi. Enfin, voilà.
Alors Job, il avait tout pour être heureux, c'est un homme juste et droit, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui s'écarte du mal, il a 10 enfants, il a un immense cheptel avec de nombreux troupeaux, il a beaucoup de serviteurs aussi. La Bible dit que c'est l'homme le plus riche de tous les fils d'Orient, donc tout va bien jusqu'au jour où Satan, l'adversaire des hommes, va trouver Dieu. Que fait-il Satan?
Satan dit, tu aimes bien ton Job là, mais c'est parce qu'il a tout, tu l'as déjà nanti, donc forcément qu'il est fidèle. Et Dieu lui dit, tu crois ça, moi je t'autorise à tout lui retirer, mais ne lui ôte pas la vie par contre. Voilà, donc ça y est, un premier round où Job se voit retirer tout ce que vous venez d'évoquer là, donc là, tous ses biens, ses richesses.
Les troupeaux sont volés par des pillards du désert.
Voilà, il y a des tempêtes qui tuent. Voilà, plus rien. Et Dieu dit, tu vois, qu'il est resté fidèle. Et Satan dit, ouais, mais bon, mais si tu lui enlèves la santé, si vraiment il souffre dans son corps, là, par contre, ça sera autre chose. Et Dieu, d'accord, tu lui enlèves pas la vie, mais je te laisse gérer sa santé. Et donc il tombe, il est couvert d'ulcères, et donc là c'est devient vraiment la catastrophe. Il est plus que voilà une loque humaine.
Tout le monde le fuit.
En plus, voilà.
Ouais, il est obligé de partir hors de la ville. Il est contagieux, c'est l'exil.
C'est la totalité de c'est la solitude, c'est la dépression, c'est le découragement, c'est la nuit totale, c'est tout. Voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est qu'elle n'évince pas la question de la souffrance. On le voit bien entendu avec tout simplement la passion de Jésus. Mais en tout cas, on fait pas comme si elle n'existait pas. Voilà. Par contre, d'où elle vient? C'est ça un peu le questionnement de Job. Pourquoi ça? Et c'est vrai que tous les humains, quand ils souffrent, se demandent mais pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, et encore aujourd'hui. Hein. Et pourtant, c'est le raisonnement qui est justement condamné des visiteurs de Job. Dieu leur reproche justement d'avoir parlé de manière inconséquente et de se tromper et de dire qu'on en souffre parce qu'on a péché. Hein, c'est ça que les amis de Job disent, mais enfin, Job, si tu souffres comme ça, c'est bien que t'as péché. Enfin, voilà. Donc, c'est la religion un peu primitive, un réflexe un peu primitif, pour ne pas dire primate, qui se dit, je souffre, qu'est-ce que j'ai bien fait au bon Dieu? Voilà.
Alors, c'était globalement, même dans la religion juive, c'était ouais. admis comme ça que, effectivement, les méchants étaient punis.
C'est une tendance théologique nette dans le judaïsme, et qui était pourtant déjà, qui allait déjà plus loin que d'autres religions, mais on le retrouve un peu dans toutes les religions. On entend par exemple aujourd'hui, on entend beaucoup parler du karma. Ah si, d'accord. Et ben, dès que par exemple, si quelqu'un se casse la gueule dans la rue, on va dire ah ben c'est le karma. Les jeunes, ils font. Moi, je traîne avec des jeunes. Qu'est-ce que vous voulez. Et donc c'est le karma à toutes les sauces. Mais c'est marrant cette histoire de karma, parce que le karma, c'est les amis de Job quoi qui disent ah ben tu tombes, tu payes quoi. T'as péché parce que t'as péché quoi en gros.
Ouais. Et donc ce texte, c'est aussi pour ça qu'il est resté dans l'histoire d'une certaine manière, parce que c'est ça son originalité, c'est de venir bousculer cette idée qu'il y avait une forme de rétribution, une récompense par Dieu selon son comportement.
C'est ça. C'est il faut, et sans pour autant nous répondre tout à fait sur du coup alors pourquoi la souffrance. Parce qu'en final on n'a pas vraiment la réponse sur pourquoi, mais on sait par contre que tout est dans la main de Dieu. Ça passe certes par Satan, mais Dieu se sert du péché. En fait, ce qui est prodigieux dans le livre de Job, c'est que Dieu se sert du mal. Et c'est pas lui qui provoque, c'est pas lui qui déclare le mal, c'est Satan, et voilà. Mais il s'en sert, ce qui peut faire dire à Saint Paul, tout contribue au bien de celui qui aime Dieu, quoi. Donc il va réussir à utiliser le mal, la douleur, la souffrance, la maladie, la mort, ça va devenir des atouts. C'est ça la révolution qui est encore plus explicite en Jésus-Christ, et puis encore une fois avec cette phrase de Saint Paul qui dit tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. C'est qu'en fait le mal n'est pas qu'un truc à subir, à se taper, la douleur machin, ça peut devenir un lieu. C'est pas que ça peut, c'est que c'est oui, ça peut, parce qu'on c'est il faut encore le vouloir, quoi. Faut encore l'envisager comme ça. Mais la souffrance devient un lieu de manifestation du salut, de la grâce, quoi. Enfin, ça devient un atout, en fait.
C'est ce qu'on retrouve avec Job, parce que finalement, sa fragilité, qui est celle de vouloir une réponse de Dieu, c'est ça sa fragilité. Il va aussi pouvoir lui parler en vérité, lui demander des comptes et se rapprocher de Dieu aussi.
Oui. Donc oui, il y a ça. Je pense aussi au fait que quand Dieu le rétablit, d'abord Dieu le justifie et Dieu le rétablit encore mieux qu'avant. Donc c'est-à-dire qu'il est encore, je sais plus combien c'est dit à la fin, quatre fois plus de richesse. Il a fallu passer par le creuset de la souffrance pour effectivement approfondir ses liens avec Dieu. D'ailleurs, regardez peut-être aussi découvrir qui étaient les vrais des faux amis. Et c'est souvent ce qui se passe dans la souffrance.
Alors justement, qu'est-ce qui va faire que ses amis vont bien percevoir son deuil, mais vont davantage être presque dans une sorte de rituel avec lui? Mais pourquoi est-ce qu'ils vont pas jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas jusqu'au bout avec lui?
Ce qui est sûr, c'est que Dieu les confond en leur disant vous avez tort, et pour vous faire pardonner, vous offrirez des sacrifices pour votre ami Job, et il lui priera pour vous. Donc il rétablit de la vérité aussi dans cette amitié, quoi.
Doute du sens de la vie. Au chapitre 3, on peut lire « Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère ? N'ai-je pas expiré au sortir de son ventre ?» Et puis, il doute aussi de la création. « Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume ? Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qu'il enferme de toutes parts ?» Ça, c'est vraiment la question du sens de la vie, du sens de sa vie et du sens de la création du monde. Ça saisit tout un chacun.
Ah oui. Avant d'aller sur le sens de la vie, mais ce qui est beau d'entendre ces paroles-là, c'est qu'on se dit parfois, un lecteur de la Bible se dit, je suis pas tout seul à penser ça parfois. c'est ça qui est la puissance de la parole de Dieu. J'encourage nos auditeurs à vraiment davantage ouvrir leur Bible. Il y a des passages, même les psaumes, qui nous rejoignent dans nos ténèbres. Quoi. On se dit, ah, mais en fait, même le roi David, il dit ça, je suis désespéré, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, je vais mourir. Voilà, bah, ça fait du bien de voir que des grands personnages de la Bible ont porté aussi ces combats-là.
Et puis ces personnages ont eu une réponse de Dieu aussi.
Voilà, et même quand on n'a pas une réponse super évidente, de toute façon, on a le droit de le dire. On a le droit de penser et d'être parfois un petit peu au bout du rouleau. Et donc, alors maintenant, la question du sens. Donc, mais j'ai pas l'impression qu'on tranche avec facilité. En tout cas, il se pose la question du sens de la vie. Mais la réponse, je saurais pas bien la résumer à partir de Job. En tout cas, lui, va c'est un peu à nous aussi de décider de quel sens on donne à notre vie aussi. Surtout quand on est au bout du rouleau, du coup, on est là. Souvent, c'est l'avantage de souffrir, encore une fois, c'est qu'on se pose les bonnes questions. Donc le sens de la vie, bah oui, pourquoi je meurs.
Disons que ces questions vont lui permettre aussi de comprendre qui est Dieu pour lui. Si on avance un peu dans le texte, on va pouvoir lire que Dieu l'aime jusque dans les détails. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas ? Tu fixes sur lui ton attention, tu l'inspectes chaque matin, tu le scrutes à tout instant. Il va comprendre en tout cas que l'amour de Dieu est sur lui. Quoi qu'il fasse, je me souviens d'un psaume dont vous nous aviez parlé aussi, « Tu es une merveille ».
Oui, ouais, ouais, exactement. C'est ça, on n'imagine pas parce que... dans la souffrance, ça me fait penser, vous savez, aux petits sur un terrain de foot qui, je sais pas, il se cogne avec un camarade, enfin, au niveau du pied, il se fait une entorse, voilà, il se roule par terre, ah, j'ai mal, il se roule par terre, et on a beau le tapoter sur l'épaule et dire ça va, il est là dans sa douleur. On est parfois un peu comme ça dans notre douleur, on n'entend pas que quelqu'un nous tapote sur l'épaule pour nous aider à nous relever, à prendre soin de nous, à dire ce que t'as besoin de quelque chose, tu veux que j'aille chercher de la glace, j'en sais rien. Voilà, donc notre souffrance nous rend parfois sourds à la présence de celui qui pourtant est omniprésent, qui est notre Dieu d'amour.
C'est intéressant ce que vous dites parce que ça rejoint aussi Job qui à un moment donné va s'enfermer dans ses pensées. En effet, il ne perçoit plus ni que ses amis sont là, ni que sa femme aussi est à ses côtés, même si on va y revenir. Il est dans ses pensées quand il traverse le malheur. Je fourmille d'idées fébriles, mes journées fuient et filent dans un espoir béant. C'est ça aussi peut-être le danger du malheur, c'est de ne plus nous laisser tourner vers Dieu.
Oui. Mais parfois, Dieu permet qu'on en arrive là aussi. Ce qui est intéressant encore dans Job, c'est la fécondité de la souffrance. Donc, en fait, d'atteindre ce niveau-là, là, de où donc vous venez de le décrire, là, dont on est presque enfermé dans ces ténèbres. Il faut parfois passer par là. Je préfère. On dit souvent, il vaut mieux souffrir 30 ans sur Terre que 3 heures au purgatoire. Mais dans le sens que, de toute façon, à partir du moment où, en tant que pêcheur, la souffrance est de toute façon un incontournable. Moi, je me réjouis en tout cas de ce que la souffrance va être un lieu d'épiphanie, donc de révélation divine, et surtout d'humilité, quoi. La seule chose qui m'intéresse sur Terre, c'est d'aller au ciel, et j'espère vous aussi. Et la seule chose qui nous permet d'accéder au ciel, c'est l'humilité, c'est la porte étroite. Il semblerait que la case souffrance soit incontournable pour rentrer par la porte étroite. C'est le dénouement, c'est l'or purifié par le feu, c'est le sculpteur qui sculpte ce bloc là, et ça fait mal quand le bloc se prend les coups de poinçon du sculpteur. Et là, la souffrance nous sculpte et nous donne la taille idéale pour pouvoir passer par la porte étroite.
Mais c'est difficile à entendre.
Ouais, c'est la vérité pourtant. La souffrance nous sculpte. Mais tout l'évangile, c'est un fil rouge, c'est pas un dada de frère Benjamin. Heureux les pauvres de cœur, la pauvreté de cœur n'est pas un concept kiffant. Heureux ceux qui pleurent, heureux c'est il y a ce qui plaît au Seigneur, psaume 50 verset 19, c'est un esprit brisé et broyé. C'est un fil rouge de toute la parole de Dieu qui nous montre combien on purifie l'or par le feu, quoi. Et donc quand ça nous arrive, pourquoi on résiste, pourquoi on se plaint, on s'agite. Non, d'abord, on devrait être surpris de pas souffrir. C'est plutôt ça qui devrait nous surprendre. Donc, franchement, à chaque fois que j'ai un pépin de santé, je me dis, mais c'est incroyable, comme c'est pas normal que ça roule si bien le reste du temps. Enfin, donc c'est pas un dû, en tout cas. Et ensuite, avoir cette conviction que c'est un atout, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça devient un atout lorsqu'on vit la souffrance avec Dieu.
Dans toute cette souffrance de Job, frère Benjamin, il y a aussi l'attitude de sa femme. On va écouter un extrait qui est lu par le comédien Kevin Cavallin.
Et l'adversaire, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter, assis parmi les cendres. Sa femme lui dit « Tu persistes encore dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Il lui répondit « Tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur ?» En tout cela, Job ne commit pas de péché par ses lèvres.
Frère Benjamin, on entendait cet extrait qui rejoint ce que vous disiez
exactement,
à l'instant.
Exactement, voilà. Et il y a aussi un petit passage, quelques versets plus haut, où il y a cette fameuse phrase de Job qui dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Et rentrer dans cet abandon total à la divine volonté. C'est tout ce que nous commande la parole de Dieu, l'abandon à la divine volonté, c'est accueillir comme tout venant de sa main, y compris le mal. Alors, n'étant pas forcément auteur du mal, mais c'est pas important qu'il soit l'auteur ou pas l'auteur du mal, enfin en l'occurrence il est pas l'auteur du mal, mais le fait qu'on accueille tout comme venant de sa main, c'est-à-dire en se disant il gère, tout est il gère, et il va m'aider à tirer le meilleur parti de cette épreuve. Voilà. Et puis à accueillir tout comme cela, dans cet abandon, cette espèce d'indifférence.
Je trouve que quand effectivement un drame nous arrive, c'est l'attitude souhaitée, souhaitable, c'est pas forcément celle qui nous vient à l'esprit dès le départ. Et pourtant c'est bien celle qu'a Job en effet au tout début. Mmh. On peut écouter d'ailleurs le comédien Kevin Cavallin lire cet extrait.
Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. »
Frère Benjamin, sur cette question de l'abandon, on vient de le découvrir avec le livre de Job, le premier chapitre. Je vous propose qu'on poursuive avec le psaume 22 qu'on va entendre. Il est lu par le comédien Kevin Cavallin.
Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Frère Benjamin, dans cette question de l'abandon, on découvre dans ce texte auprès de qui on s'abandonne, la figure du berger. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi présente? Ce n'est pas le berger d'ailleurs, c'est mon berger. C'est important.
Oui, la phrase « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », elle résume tellement tout. Et elle rend compte, en fait pour moi, si on manque de quelque chose... c'est que le Seigneur n'est pas encore assez notre berger. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est un peu trash, hein, mais c'est comme quand Jésus dit « mon fardeau est facile à porter hein, ». Des fois, ça nous agace, cette déclaration de Jésus. et ben c'est pareil, mais il a raison. C'est-à-dire que si on souffre plus qu'il n'en faut, c'est qu'en fait, on n'est pas ajusté. Par exemple, on résiste. Et en fait, si vous regardez, il y a bien des souffrances humaines qui sont intolérables, non pas en tant que telles, mais parce qu'on y résiste. On les admet pas, on se serre le, aïe aïe, on serre les poings, on grogne. Et alors que lorsqu'on rentre dans une acceptation, dans un accueil comme Job, on accueille les bonnes choses comme venant de sa main et pourquoi pas les mauvaises, parce que les mauvaises peuvent devenir des potentiels atouts aussi, enfin deviennent des atouts lorsqu'on le vit avec lui. Et donc voilà, c'est ça, c'est mon berger. Si je manque de quelque chose, si je souffre, c'est qu'en fait le Seigneur règne pas encore suffisamment sur mon cœur.
Alors des coachs en développement personnel vous diraient la même chose, c'est-à-dire accepte ta douleur. En quoi le chrétien vit quelque chose de différent?
Mais je trouve que souvent les coachs de développement personnel ils donnent des astuces pour moins souffrir, moins subir, moins. Alors que là on dit bien voir pleinement en face l'immensité, l'étendue de notre douleur, mais la vivre avec Dieu et avoir cette conviction que Dieu va en faire quelque chose. Il est en train de nous travailler comme encore une fois le sculpteur travaille sa poterie, quoi. Enfin, le potier travaille
le vase, la poterie.
Alors si on poursuit ce psaume, le verset 2, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. Je croyais que la vie avec le Christ, c'était quelque chose d'agité. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce repos, ces eaux tranquilles? Alors bien sûr, on est dans l'Ancien Testament, dans ce psaume 22. Que veut nous dire ici les eaux tranquilles?
Moi, je crois qu'on peut... On peut vivre tranquillement comme dans un navire les aléas des tempêtes qui nous environnent. Je sais que plus j'ai développé une vie de prière, par exemple aujourd'hui je fais 10 000 trucs en même temps, mais j'ai jamais été aussi tranquille. J'espère faire attention, hein, toujours être très vigilant, mais j'espère pas donner d'ailleurs cette impression d'hyperactivité, etc. Mais bon, c'est je peux pas le garantir, mais en tout cas, je crois, il me semble que je suis jamais été aussi zen que jamais, alors que je sors je prépare un album, je suis sur plusieurs livres, je suis sur une direction de collège, je suis sur les réseaux sociaux, enfin, c'est monstrueux. Donc dans cette agitation, et sans compter parfois les éventuels persécution ou en tout cas hostilité, donc qui fait que oui c'est agité, mais en fait au fond de moi non, je me sens pas du tout agité. Plus ça va, plus j'ai l'impression que mon cœur est dans le cœur de Dieu, et donc tous les aléas de la vie extérieure et tous les par exemple les critiques, les secousses, ça fait boum 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 sur le cœur de Dieu. Et moi mon cœur est dans le cœur de Dieu, ça fait boum comme ça, et c'est le chewing-gum. Et donc c'est... Non, je crois que la vie de prière fait que plus on est connecté à Dieu, plus on ne manque de rien. Sur des prés d'herbes, c'est frais, c'est paisible. Il y a plus rien qui... Enfin, ça peut arriver. Je suis pas tout le temps comme ça, mais je suis en train de décrire un état qu'on est tous appelés à vivre, celui d'une certaine béatitude. Et ce qui me permet d'être dans cette béatitude, c'est la conscience de ma pauvreté. Parce que c'est ça, la souffrance nous conduit à une conscientisation de nos limites, et cette conscientisation de nos limites nous conduit à l'humilité. Et l'humilité nous conduit à dépendre totalement de Dieu. Et quand on dépend totalement de Dieu, alors on manque de rien.
On est conduit, c'est le verset 3, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Ah ben c'est ça, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, c'est-à-dire que notre vie n'est plus qu'orientée à ça, il n'y a plus que ça qui compte. Et je pense qu'on meurt gaga dans ces conditions. C'est-à-dire qu'on est un amoureux qui, tout ce qui l'intéresse, c'est la gloire de Dieu. Et ça s'appétit dans nos yeux, quoi.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Bon, c'est ici le cœur du poème. Les ténèbres se lèvent, alors il faut rentrer au bercail en passant par la vallée sombre avec les bêtes féroces, vous en parliez à l'instant finalement. Les brebis se serrent autour de leur berger.
C'est fabuleux. Je passerai le ravin de la mort. C'est ça, il n'y a plus rien qui... Il y a un petit côté stoïque, hein, mais sauf que ce n'est pas la force du poignet, c'est à sa force à lui. Moi, si je rencontre quelqu'un ou si moi ça m'arrive d'effectivement être dans une paix indécrottable malgré telle épreuve, je sais que je peux même pas me vanter de ça. C'est mon cœur qui est dans son cœur, c'est son cœur qui est dans le mien. Je ne dois cet état de paix, hein, passerai-je le ravin de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, je suis pas dans la crainte, je suis pas dans l'angoisse, je suis dans l'accueil. Cet état-là, cette attitude d'accueillir la souffrance, mais il y a que Dieu qui peut réaliser ça dans le cœur des gens.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Et puis on terminera par ce dernier verset. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Peut-être un souhait pour nos auditeurs sur cette question de l'abandon, une dernier souhait.
Alors souvent quand je dis parce que pendant l'émission on a quand même dit certaines choses qui la personne qui vient d'apprendre que je sais pas moi que son fils est mort dans un accident de voiture elle pourra pas entendre. Évidemment, hein, y a des stades d'audition, mais c'est pas parce qu'une personne qui prend pleine tête une énorme épreuve ne peut pas entendre qu'on peut pas le dire pour autant. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on dit là, il faut y mettre les pincettes et peut-être même surtout savoir fermer sa bouche quand on est au contact de gens qui sont vraiment confrontés à des grosses épreuves. Hein. Mais voilà, même si parfois faut faire silence, parfois faut aussi pouvoir le dire. Et donc dire quoi? Bah dire que la souffrance n'a jamais le dernier mot. C'est bien tout le sens de la mort et résurrection de Jésus. Donc la souffrance peut être un tremplin vers la sainteté, vers l'humilité. Ça peut être un atout, même si on le voit pas encore. Il faut faire confiance en la parole de Dieu qui nous annonce cela et qui nous promet que Dieu tirera un fruit. Supérieur à tout ce qu'il aurait pu imaginer, et que finalement, avec le recul, un jour, il se dira « Ah, mais en fait, c'était bien que je vive cette épreuve. »
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'était le psaume 22 avec vous, frère Benjamin. Merci beaucoup. Et puis auparavant, on lisait le livre de Job qui est situé dans l'Ancien Testament, notamment le premier chapitre, voilà, juste avant. Merci beaucoup d'être venu, frère Benjamin. Je rappelle que vous êtes prêtre salésien, directeur du collège Don Bosco, chanteur, présent sur les réseaux sociaux, fondateur de la chorale Cap-Cœur d'Argenteuil. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti récemment qui s'appelle « Tu as du prix aux yeux de Dieu ». C'est votre parcours de prêtre aux éditions Artege. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.